Éric Lelgouache, bonjour. Bienvenue pour ce nouveau Café de l'innovation. Alors, nous sommes très heureuses de vous accueillir. Vous êtes l'auteur de Panique aux frontières, enquête sur cette Europe qui se ferme, paru aux éditions Max Milo. Alors, vous avez pendant plusieurs années contribué à l'un des principaux sites d'information sur les questions européennes. Et en 2010, vous avez décidé de changer de regard pour vous investir dans une grande enquête sur le terrain aux frontières de l'Europe. Alors, première question évidente, pourquoi cet ouvrage, pourquoi cette enquête qui vous a mené à la rencontre de responsables politiques, d'immigrés en Grèce, à Malte ou en Turquie?
Ça tient justement, vous l'avez rappelé, à ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que j'ai une formation en droit communautaire. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai contribué à toute-l'Europe.fr, qui était un site de sensibilisation et aux questions européennes. Et dans le cadre de ce travail pour toute l'Europe, on prenait toujours cet exemple de l'Europe Erasmus, l'Europe de la libre circulation des personnes, l'Europe de la paix, l'Europe des droits de l'homme. Donc on s'appuyait sur des exemples assez positifs et qui tenaient à un certain programme initial de la construction européenne, qui tenait en quelques mots à la liberté de circulation des personnes, l'ouverture des frontières et le respect des droits de l'homme. Et ça, ce sont des éléments dont je me suis rendu compte qu'ils étaient mis à mal par les politiques migratoires menées aujourd'hui par les pays membres de l'Union européenne. Donc ma curiosité a été piquée par certains reportages, notamment sur les arrivées de migrants en Méditerranée. Et j'ai donc décidé d'explorer le sujet et les contradictions qui se posaient aujourd'hui à l'Union européenne.
Alors, à la lecture de votre ouvrage, on découvre justement des conditions de vie assez dramatiques des immigrés qui tentent leur chance en Europe. Est-ce qu'il existe un moment particulier qui vous a marqué, une rencontre ?
Oui, quand j'étais à Malte, j'ai eu l'occasion de visiter un centre de rétention. Alors, il faut savoir qu'à Malte, c'est la politique gouvernementale. Tous les immigrés qui arrivent, qu'ils soient des demandeurs d'asile ou non, sont systématiquement enfermés dans les centres de rétention. J'ai eu l'occasion d'en visiter un. Et j'ai été frappé par l'incompréhension que manifestaient les personnes qui étaient enfermées face à leur sort et surtout face à l'accueil que leur faisait l'Europe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de constater à nouveau en Grèce, où j'ai rencontré aussi des migrants qui étaient clandestins et qui ne comprenaient pas que dans l'Europe des droits de l'homme, ils puissent être accueillis de la sorte, enfermés, pourchassés. Donc voilà.
Et donc ces choses terribles que vous décrivez, finalement, on a l'impression que le grand public n'est pas toujours très au courant. Donc est-ce que vous pensez que les médias, est-ce qu'ils ont vraiment le rôle de porteurs d'informations? Est-ce qu'ils le tiennent réellement aujourd'hui?
C'est-à-dire que ces arrivées de migrants, souvent, ce qu'on nous montre dans les médias, c'est les barques surchargées, les naufrages. Mais généralement, on va un peu moins dans les centres de rétention, c'est vrai. Donc l'image qui peut prendre le dessus, ça peut être celle d'une invasion. C'est l'image sur laquelle jouent, peut-être qu'on va y revenir d'ailleurs, jouent certains partis populistes aujourd'hui en Europe. Mais c'est vrai qu'après, il y a cette question de la rétention, de l'enfermement, des poursuites par les policiers, de la traque. Je pense qu'on peut à certains égards parler de traque, hein, de certaines personnes destinées à être reconduites dans leur pays. Donc tout ça est source de drames humains. Dont les médias ne se font pas effectivement toujours l'écho. Certains d'entre eux le font. Hein. Généralement, quand vous allez sur les médias, on va dire plutôt de gauche, on parle plus de l'immigration sous cet angle-là que, par exemple, sur d'autres médias de droite où on parle plus des aspects, on va dire, menaçants du phénomène.
Alors, vous insistez beaucoup sur l'indifférence d'une partie de l'Europe face à ces conditions de vie, face à ce traitement, tous ceux qui ne sont pas concernés, en fait, tous les pays qui ne rencontrent pas d'arrivée d'immigrés en tout cas. Quelles sont les causes de cette indifférence? Vous citez notamment le fait qu'il y a eu une forte prise de conscience par rapport au sort des boat people dans les années 80 et que là aujourd'hui c'est pas du tout le cas.
Votre question porte sur l'indifférence des pays européens aujourd'hui face, oui. Face au phénomène
face à leurs conditions de vie
je crois que d'abord c'est plus tout bonnement je pense que c'est plus simple de s'occuper des boat people pour les Européens quand le phénomène a lieu en Asie du Sud-Est. Mais dès lors qu'il frappe à votre porte, c'est tout de suite plus compliqué. Ensuite, je pense qu'il y a aujourd'hui, peut-être la fin, ou en tout cas les idéaux, on va dire rapidement, pour faire rapidement, de 68, tendent à s'estomper au sein de la société, les idéaux humanitaires, généreux, tiers-mondistes, tout ça, j'ai un peu l'impression que c'est en perte de vitesse aujourd'hui dans les sociétés européennes, et je pense que c'est dû, outre la question de la réussite politique ou non de ces idéologies, un vieillissement de la population, à une crise économique qui maintenant dure depuis beaucoup d'années. Et donc tout ça, et puis aussi je pense un troisième phénomène qui est la prise de conscience par les Européens qui vivent désormais dans une société démographiquement plus diversifiée que par le passé. Je crois que les Européens sont en train de se rendre compte que maintenant le multiculturalisme, en tout cas pas l'idéologie, mais en tout cas le fait que des gens de différentes cultures et de différentes origines sont en Europe et vont y rester, c'est quelque chose dont les Européens ont pris conscience récemment. Et cette conjonction du vieillissement, de la crise et de la prise de conscience de l'immigration durable explique en partie la montée et le succès des partis populistes et xénophobes aujourd'hui en Europe, et cette méfiance qui habite une certaine partie de la population quant aux questions d'immigration.
Alors justement, vous insistez beaucoup sur le fait que la politique d'immigration s'est vraiment renforcée, qu'elle est plus dure et qu'elle est liée à une crainte d'une crise migratoire majeure qui pourrait venir dans les années qui viennent. Est-ce que cette crainte est justifiée? Est-ce qu'on doit se méfier d'une crise migratoire, ou est-ce que c'est quelque chose qui justement est instrumentalisé par les partis populistes?
Ce qui est certain, c'est que on constate quand même une montée des phénomènes migratoires vers l'Europe. De là à ce qu'on parle d'une poussée migratoire, je pense que les chiffres sont pas suffisamment élevés pour qu'on aille jusque-là. Ce qui est certain, c'est que des gens essayent d'entrer en Europe. Une des raisons pour lesquelles les chiffres de l'immigration clandestine ou irrégulière sont élevés, c'est aussi parce qu'on a fermé les canaux d'immigration légale. Donc tout ça, des économistes écrivent beaucoup de choses là-dessus. J'ai lu chez certains d'entre eux des théories selon lesquelles si jamais on ouvrait les canaux d'immigration légale, eh bien fatalement ceux d'immigration irrégulière baisseraient. D'autres disent que si on continue d'ouvrir, les gens viendront de plus en plus. Donc tout ça, finalement, les démographes, les spécialistes d'immigration ont du mal à le percevoir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement, c'est que la planète s'est mise en mouvement. Le nombre de migrants sur la planète est en augmentation. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 80% des échanges se font des pays du Sud, enfin des mouvements se font entre pays du Sud, 20% seulement vers les États-Unis et l'Europe. Donc, difficile de parler de crise migratoire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des poches de conflits, notamment dans la Corne de l'Afrique, en Afghanistan, au Moyen-Orient, qui poussent des réfugiés à entreprendre le voyage vers l'Europe. Et il y a aussi la question des migrants économiques qui viennent chercher des meilleures conditions de vie en Europe. C'est un phénomène qui va durer, je pense. De là à spéculer sur ses proportions, je m'arrêterai là.
Et donc, pour en revenir donc à une certaine vision de l'Europe dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir en revenir à une vision de l'Europe qui était plus basée sur la protection des droits de l'homme avant tout, telle qu'elle était faite au début de l'Europe, et donc qui maintenant, selon vous, est en train un peu de tourner? Est-ce que vous pensez qu'il y a un retour possible, ou est-ce qu'on vient d'une nouvelle ère?
C'est compliqué parce que déjà l'Europe des droits de l'homme, c'est une réalité, certes, mais c'était aussi c'est un affichage, tout ça. Puis là, on est dans le domaine de la réelle politique sur les questions d'immigration, parce que le principal reproche qui est fait au regard des droits de l'homme et notamment des conventions de Genève, c'est qu'on ne respecte pas la possibilité pour des demandeurs d'asile de l'obtenir en Europe, en empêchant un certain nombre d'entre eux d'arriver aujourd'hui sur le territoire européen. Ça, c'est vraiment la question du respect de la Convention de Genève, c'est une des principales et plus importantes questions qui met l'Europe en porte-à-faux par rapport à ses propres principes. Donc, savoir s'il y aura un retour, s'il y a un retour en arrière sur les droits de l'homme, je dirais qu'aujourd'hui, l'immigration montre que la conception des droits de l'homme, enfin, les questions d'immigration montrent que la conception des droits de l'homme, elle vaut de plus en plus pour l'Europe et que pour le reste du monde, c'est plus compliqué, c'est un peu au cas par cas, quoi. Voilà, la frontière est maintenant, commence à se tracer entre les droits de l'homme en Europe et on compose un peu avec le reste du monde en fonction de nos intérêts, quoi.
Et alors justement, comment on peut accepter une telle conception à deux vitesses des droits de l'homme? Parce que justement, le principe normalement au départ, c'était l'universalité. Si on part sur une conception à deux vitesses, est-ce que c'est pas nier tout le principe des droits de l'homme justement?
Ah bah oui, les droits de l'homme sont, vous l'avez dit, indivisibles et universels. Donc dès lors qu'on les respecte pas pour un étranger, on les respecte pour personne a priori.
Et oui. est-ce que les États ont un bénéfice à tirer de cette situation pour qu'ils acceptent de la maintenir? Parce qu'ils pourraient réagir, décider de mettre des centres plus acceptables.
Les centres plus acceptables, c'est une question de moyens, hein, déjà. On peut en revenir aussi au principe. Est-ce que déjà il faut mettre les gens dans des centres et, parce qu'en principe, selon les règles du droit international, un demandeur d'asile ne doit pas être enfermé, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pourtant ce qui est pratiqué aujourd'hui. Sur la question de savoir si les États membres peuvent réagir, je crois que oui, si des hommes politiques aujourd'hui se dressaient pour défendre le droit des étrangers, probablement que la politique changerait. Il faudrait que ce soit le cas dans beaucoup de pays européens, dans la majorité des pays européens. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un consensus quand même autour de la nécessité de combattre l'immigration irrégulière et de réguler l'immigration par ailleurs. Donc, dès lors que tout ça fait consensus, et je ne vois pas comment les choses pourraient changer dans un avenir proche.
Ça donne l'image un peu que l'Europe souhaite devenir une forteresse. Est-ce que c'est possible? Vous parlez de l'effet waterbed, dès qu'on bloque un endroit, ça arrive par un autre. Est-ce que l'Europe pourrait vraiment se bloquer ou c'est physiquement impossible qu'il y ait une vraie politique stricte?
Techniquement, ça me paraît assez impossible de contrôler l'ensemble des frontières. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la majorité des gens qui arrivent en Europe aujourd'hui, c'est des gens qui viennent légalement. Des immigrés qui viennent légalement munis d'un visa et qui ne rentrent pas chez eux après expiration de leur visa. Et ça, c'est vraiment plus de 50%, je pense, où j'ai vu des chiffres à ce propos de ce qu'on appelle les clandestins. Techniquement, c'est en effet quasi impossible. Ensuite, vous parlez d'Europe forteresse. C'est une expression, c'est vrai, qu'on entend souvent. Moi, je trouve qu'elle est pas tout à fait juste dans la mesure où, davantage qu'une forteresse, je pense qu'on s'achemine vers un système d'écluse, c'est-à-dire on bloque pour les indésirables et on ouvre, parce que la nécessité, a priori, devrait s'en faire sentir dans les années qui viennent, on ouvre pour les immigrés dont on souhaite qu'ils participent à la vie économique du continent européen. Donc, plutôt que forteresse, je parlerai d'écluse.
Alors, vous parlez de l'exemple de la Grèce qui accueille l'essentiel des flux irréguliers.
Ça, c'était avant les événements d'Lampedusa, je pense. Peut-être maintenant, il faudrait le calcul.
Ouais. Voilà, rétablir. Mais justement, ce pays qui est quand même dans une situation budgétaire assez compliquée, est-ce qu'il peut être... il peut exploser sous la pression de ce flux? Et pourquoi il y a une si faible solidarité européenne? Parce qu'on parle beaucoup de solidarité budgétaire, c'est des questions dont on entend beaucoup parler, et on entend très peu parler d'une solidarité pour gérer ce flux. Au contraire, vous parlez du Dublin 2 qui est plutôt l'inverse de la solidarité européenne. À quoi est dû ce manque de solidarité?
D'abord, pour poser le contexte, c'est vrai qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui pénètrent chaque année par la Grèce dans l'espace Schengen. Donc jusqu'à récemment, c'était vraiment les deux, trois dernières années le principal point d'entrée en termes de passage frontalier, en tout cas. Les règles européennes veulent, et c'est le règlement Dublin 2 que vous avez cité, veulent que c'est le pays d'arrivée qui s'occupe de la demande d'asile du migrant et qui en tout cas s'occupe de le maintenir sur son territoire pour éviter qu'il parte ailleurs en Europe. Et ce qui fait que beaucoup de migrants sont retrouvés au cours des dernières années piégés en quelque sorte en Grèce, impossible pour eux de poursuivre leur voyage, ce qui était pourtant leur but. Hein. Personne ne veut rester en Grèce, et encore moins aujourd'hui vu les conditions sur place. Ils veulent tous aller en Italie, en Europe, enfin pas en Italie, surtout en France, en Angleterre, en Allemagne. Et donc, il y a une espèce de chaudron aujourd'hui qui est en train de bouillir en Grèce. Ils ne peuvent pas partir, ils peuvent pas poursuivre leur voyage. Le système d'asile grec est déplorable, il était quasiment inexistant, parce qu'au fait, avant, les Grecs, ils cherchaient asile ailleurs, ils partaient, c'était une terre d'émigration. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec cette immigration, et sur le plan administratif, ils sont dépassés. Donc, c'est vrai, la Grèce aujourd'hui est confrontée à ce problème, en plus de la crise économique. Et la vérité, c'est que les autres pays membres ont intérêt à ce que des pays comme la Grèce jouent un rôle de tampon, parce qu'ils ne tiennent pas à ce que les immigrés se retrouvent chez eux. Ensuite. Donc, l'intérêt pour eux, c'est... alors, je ne sais pas jusqu'à quand ça va tenir, mais l'intérêt, c'est que la Grèce garde les migrants en question.
Écrivez donc voilà ce tampon que les États s'accordent à donner à la Grèce, et aussi vous décrivez une couverture réciproque entre les États voilà qui ont une forme de consensus pour accepter des situations pourtant difficiles. Donc ce sont des accusations assez fortes. Et donc est-ce que vous avez eu des retours depuis la sortie de votre livre?
Non, bah c'est pas des accusations, hein. Je veux dire, c'est un constat. La chose la plus grave que j'ai vue, je pense, pendant que j'ai enquêté, j'y suis pas allé, hein, et j'irai encore moins, je pense, aujourd'hui ni demain, c'est la Libye. La Libye, il faut savoir que depuis 2008, l'Italie de Berlusconi a conclu avec la Libye de Kadhafi un accord permettant de renvoyer tous les migrants qui arrivaient à Lampedusa vers la Libye directement après les avoir interceptés en mer, quoi. Tout ça est déjà... disons qu'il y a des gros doutes sur la légalité de l'affaire. Les jurys se posent pas mal de questions. La Cour européenne des droits de l'homme a ouvert une enquête à ce sujet. En tout cas, un procès est en cours. Et par ailleurs, on sait très bien que quand on renvoie des migrants, dont certains d'entre eux sont des demandeurs d'asile, vers un pays comme la Libye, qui n'est même pas signataire de la Convention de Genève et qui a pour pratique, ou en tout cas avait pour pratique à l'époque de Kadhafi, d'enfermer tout le monde, de les torturer, de les abandonner dans le désert... tout ça, c'est quand même, en termes de respect des droits de l'homme, je pense qu'on est arrivé là au pire de ce que l'Europe a fait sur le plan de la question migratoire. Donc il y avait cet accord en 2008 entre l'Italie, et la Libye, dont il était prévu que l'Union européenne prenne la suite. Il était prévu, et des négociations étaient en cours jusqu'en février dernier, que l'Europe conclue un accord avec la Libye pour, au nom de l'Union européenne, renvoyer des gens vers ce pays. Qui, encore une fois, n'est pas signataire de la Convention de Genève. Des artifices ont été trouvés par les gens de la Commission à l'époque, consistant à dire « oui, mais elle est signataire de la Convention d'Afrique, de l'Union des États africains, donc on peut s'en contenter ». Enfin, tout ça, c'était quand même jésuitique, au possible. Et la vérité, c'est que l'Europe s'apprêtait à renvoyer tous les migrants, et y compris les demandeurs d'asile, vers la Libye de Kadhafi. Donc, bon, s'il y a quelque chose de scandaleux, à mon avis, et d'accusations lourdes, mais encore une fois, publiques, parce que tout ça se savait quand même, c'est bien celle-ci, quoi.
Alors, pour en revenir rapidement au mouvement populiste, est-ce que vous pensez qu'ils ont une influence sur le projet politique européen et qu'on va aller vers un durcissement du fait de ces mouvements qui ne sont pas forcément au pouvoir, mais qui ont un impact assez important?
Oui, je pense. Enfin, je pense parce que, comme vous l'avez dit, sans forcément être au pouvoir, encore qu'ils sont quand même au pouvoir en coalition avec la Ligue du Nord, avec le parti de Silvio Berlusconi en Italie, ils pèsent sur l'agenda. Et on le voit sur la politique migratoire et notamment la lutte contre l'immigration irrégulière. Les moments où l'Union européenne a adopté les décisions les plus, on va dire, les plus fortes, dans ce domaine, c'est des moments où l'Europe était sous pression, où dans certains pays, des partis comme le Front National ou des partis populistes danois étaient arrivés au pouvoir, ou néerlandais. Donc il y a une réponse des partis de gouvernement aux inquiétudes exprimées par la population qui vote pour ces partis populistes de plus en plus en Europe, qui peut jouer sur l'agenda à plusieurs niveaux, l'immigration, les questions liées à l'islam, je pense, et évidemment l'adhésion de la Turquie, quoi. Donc, voilà trois sujets, à mon avis, où on peut s'attendre à ce que l'agenda soit orienté et déterminé en partie par la montée des xénophobes, des populistes et xénophobes en Europe. Oui.
D'accord. Et donc, comme nous parlons dans le cadre des cafés de l'innovation,
Oui.
Est-ce que vous auriez des recommandations novatrices pour la politique d'immigration
Je sais pas si elles seront novatrices, mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'à l'avenir, l'Union européenne doit être capable d'envisager la politique migratoire dans son ensemble. C'était déjà ce qu'elle entendait faire il y a 10 ans lors du sommet de Tampere, c'est-à-dire considérer à la fois les aspects de lutte contre l'immigration irrégulière, parce que je ne pense pas non plus que du jour au lendemain on va ouvrir les frontières à tout le monde, mais tout en tenant compte de son engagement à respecter les droits de l'homme, et aussi peut-être des questions économiques, parce qu'on sait, on dit en tout cas, mais il faudrait en débattre, et il faudrait que le débat puisse se faire dans des conditions un peu plus sereines, que l'Union européenne aura besoin de main-d'œuvre dans les prochaines décennies. Donc il y a un enjeu à traiter tous ces aspects de la politique migratoire de manière cohérente, et sans traiter uniquement le volet sécuritaire et répressif. Donc voilà ma recommandation. Je ne sais pas qui l'écoutera, mais voilà.
Écoutez, merci beaucoup Éric Lelouache pour votre ouvrage et pour cette discussion.
Merci.